これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le gai savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Bernard Laniel.
Et à la réalisation, comme toujours, François Connac. Qu'est-ce qu'un gai savoir ? Un savoir qui doute et rit de lui-même sous peine de n'être pas sérieux. Une candeur retrouvée qui interprète le monde au lieu de le transformer. Un jeu d'enfant qui embellit l'existence en choisissant de la comprendre avant de la juger. L'art, en un mot, d'être inaccessible aux érudits tout en refusant de céder sur le fond. Telle est la méthode que nous avons mise en œuvre à votre intention, chers auditeurs, avec pour seule récompense le sentiment peut-être illusoire de parvenir de temps en temps à vous donner le goût des livres dont nous parlions. La démarche est infinie, mais pour nous, elle s'achève aujourd'hui, pour nous donc, qui, pendant 3 ans, vous avons gaiement, gaiement donné tout ce que nous savions.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Alors voilà.
Voilà.
C'est comme ça.
C'est comme ça.
On aurait pu parler du huis clos dans le gai savoir.
On aurait pu parler du huis clos, oui, c'est vrai.
Parce qu'on vient d'en mimer le début.
Voilà, effectivement, on vient d'en mimer le début. On aurait pu parler du huis clos, mais j'ai pas une passion, moi, pour huis clos. J'ai jamais compris cette
vous
histoire.
Vous n'avez pas une
de...
passion pour Sartre, tout ça.
Non, c'est pas vrai, vous êtes injuste. Sartre, c'est... Il y a de très belles choses. J'ai toujours tenu Sartre, on l'a dit 1000 fois, pour un antidote à lui-même. Donc, le Sartre de l'être et le néant, de la nausée, comme antidote au Sartre de plomb, à l'auteur de la critique de la raison dialectique. Ou alors pire, des communistes et la paix. Je suis plus camusien que sartrien, voilà, c'est une question de tempérament. Même si le théâtre de Sartre est à mon avis meilleur que celui de Camus. Nous n'avons pas parlé de Huiglo, on n'a pas parlé de Caligula non plus d'ailleurs, hein, à ma connaissance. Vous savez d'ailleurs que c'est Camus, himself, qui était pressenti pour jouer Garcin, pour créer le personnage de Garcin.
Et pourquoi ça ne s'est pas fait ?
Eh bien, je ne sais plus. Vous savez que Camus faisait grand cas du théâtre, Sartre aussi. Camus jouait.
Mais qu'il jouait pas très bien.
Il jouait pas très bien. Il lisait pas très bien. C'était un mauvais lecteur et c'était clairement pas un très bon acteur. Mais alors, quand il parlait de théâtre, il disait tout ce que je sais de la liberté et de la morale, je l'ai appris soit sur un terrain de foot, soit sur les planches d'un théâtre. Et quand il parlait de théâtre, c'était formidable. Non, huis clos, on l'a pas fait. On l'aurait fait si on avait continué. Le côté l'enfer, c'est les autres. On se retrouve en enfer. Inès, Estelle, Garcin, tout ça. Cette pièce m'a... Moi, la première fois que j'ai vu cette pièce, c'était au Français, c'était Michel Aumont qui jouait Garcin. Et bon, j'avais été impressionné, je me souviens, j'avais été émerveillé, j'avais été impressionné, je me souviens à l'époque, parce que j'étais en seconde, je connaissais pas du tout la pièce, et donc j'étais en seconde, je vais là-bas à l'invitation d'une amie, donc on y va ensemble, je vois la pièce, et j'avais été très frappé, je me souviens d'une émotion que j'avais ressentie en lisant Antigone d'Anouilh aussi, pour des raisons tout à fait différentes, c'était la familiarité du langage, la proximité du langage, le sentiment que bah, c'est pas Molière, c'est pas Shakespeare, c'est du théâtre moderne, c'est du théâtre moderne, et pourtant il y a de très belles choses. On peut faire des belles choses avec le langage de tous les jours. C'était une impression, c'est une expérience importante ça. C'est une expérience importante, il ne faut pas la sacraliser, il ne faut pas se dire que du coup il faut absolument dire des gros mots et parler comme tout le monde pour dire des belles choses. Parce qu'à moins d'être Céline, ça ne marche pas non plus, Céline ou Sartre. Mais je me souviens de cette émotion, mais enfin cette émotion n'était pas suffisante pour justifier, je trouve, qu'on revint pendant une émission entière sur huis clos. En matière de visite des enfers, de séjour aux enfers, là en revanche j'ai un regret cuisant, c'est le chant 11 de l'Odyssée, Paola. Vous savez ce qui se passe au chant 11 de l'Odyssée, vous en souvenez ?
J'ai honte, pas du tout.
Et oui, mais vous n'ayez pas honte, vous n'avez pas, par définition, vous n'avez pas été contrainte de travailler sur cette affaire. Le chant 11 de l'Odyssée, c'est le voyage d'Ulysse aux enfers. Ulysse envoyé aux enfers et sous les conseils de Circé, il parvient aux enfers sans encombre, il tue un cerf et le sang du cerf, enfin les âmes des morts viennent se nourrir, se repaître du sang du cerf qu'il a sur les épaules. Et c'est un passage merveilleux, magnifique. C'est un passage qui a inspiré 2 auteurs contemporains dont je voudrais dire un mot. Le premier, on le connaît, ça, on en a parlé un petit peu dans Le Gai Savoir, c'est Marcel Proust qui décrit littéralement une descente aux enfers dans le rêve qu'il fait, dans les intermittences du cœur, dans le rêve qu'il fait de sa grand-mère. Il est aux enfers, il essaie de parler avec elle, elle ne lui répond pas, mais c'est un voyage aux enfers, il parle même des eaux du Styx. Donc il est aux enfers et c'est une référence directe en fait à l'Odyssée dont Proust était féru. Et le second, c'est Primo Levi. J'y reviendrai un tout petit peu après, et parce que là, pour le coup, c'est objectif. Hein. Il y a pas de doute. La référence est claire. Dans le chant 11 de l'Odyssée, en le relisant l'autre jour, je me suis aperçu d'un truc incroyable. C'est que, vous savez que à la fin de l'Odyssée, on a beaucoup ri en disant que Ulysse, se retrouvant Pénélope après avoir ramé pendant 10 ans, tue les prétendants, se retrouve bien tranquille avec sa femme, retrouve son lit sculpté dans un arbre, etc. Et qu'au fond tout va bien. Et on s'était posé la question du lendemain, qui était la question que posait Jean Kélévitch. La ride du souci lui apparaît sur le front dès le lendemain. Forcément, une fois qu'Ulysse a tout fait, qu'est-ce qui arrive? Bah, il s'ennuie. Il est avec une femme qui, elle, a pris 20 ans, alors que lui est resté jeune puisqu'il est protégé par Athéna. Il ne sait plus quoi faire, il n'y a plus de médiation, il n'y a plus de voilà. Et on se demandait à quoi ressemblerait l'avenir d'Ulysse une fois que l'histoire est terminée. Qu'est-ce qui se passe après le générique? Une fois que Paulette Goddard et Charlie Chaplin marchent sur la route à la fin des temps modernes, bah, faut bien qu'ils arrivent quelque part, si vous voulez. Une fois que la lumière s'éteint, où ils vont? Où ils vont? Une fois qu'on a offert aux spectateurs une belle image, une image d'espoir, une image symbolique tout entière pétrie de symboles, si on prend l'histoire au premier degré, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Et ça me faisait beaucoup rire cet exemple, parce que Jean Kélévitch s'en servait pour démontrer que la nostalgie a toujours un coup d'avance. Et que quand on revient au lieu dont on a la nostalgie, bah, le lieu n'arrive pas au talon du lieu imaginaire, du lieu rêvé ou forgé par notre nostalgie. Or, dans le chant 11 de l'Odyssée, Ulysse rencontre Tirésias. Et que lui dit Tirésias? Tirésias le met en garde. Il lui dit « Attention Ulysse, quand tu vas partir des enfers, ne touche pas au bœuf de Hélios, du dieu solaire. » Parce que, voilà ce qu'il lui dit. « Respecte ses troupeaux, ne songe qu'au retour, et je crois qu'en Ithaque, à travers tous les maux, vous rentrerez encore. » « Mais je te garantis, lui dit Tirésias, si vous les maltraitez, les bœufs, je te garantis que c'est fini de ton navire et de tes gens. Tu pourrais t'en tirer et revenir, mais quand? Et dans quelle misère? Tous tes hommes perdus, sur un vaisseau d'emprunt, et pour trouver encore le malheur au logis, pour y voir des bandits te dévorer tes biens et le prix à la main te courtiser ta femme. Tu rentrerais à temps pour punir leurs excès à la pointe du bronze, mais... lorsqu'en ton manoir tu les aurais tués par la ruse ou la force, il faudrait repartir... avec ta bonne rame à l'épaule et marcher tant et tant qu'à la fin, tu rencontres des gens qui ignorent la mer et, ne mêlant jamais de sel au mets qu'ils mangent, ignorent les vaisseaux aux joues de vermillon et les rames polies, ces ailes de navire. Veux-tu que je te donne une marque assurée sans méprise possible? Le jour qu'en te croisant, un autre voyageur demanderait pourquoi sur ta brillante épaule est cette pelle à grains? C'est là qu'il te faudrait planter ta bonne rame et faire à Poséidon le parfait sacrifice d'un bélier, d'un taureau et d'un véra de taille à couvrir une truie. Tu reviendrais ensuite offrir en ton logis la complète série des saintes hécatombes à tous les immortels, maîtres des champs du ciel. Puis la mer t'enverrait la plus douce des morts. Tu ne succomberais qu'à l'heureuse vieillesse, ayant autour de toi des peuples fortunés. En vérité, j'ai dit. C'est extraordinaire, non? C'est l'avenir d'Ulysse. C'est le lendemain d'Ulysse. C'est après l'arrivée d'Ulysse. C'est Ulysse meurt de son vivant puisqu'il arrive puisque son désir est exaucé, celui de retrouver sa femme. Donc d'une certaine façon tout va bien, ou plutôt les problèmes commencent une fois que les problèmes se dissipent. Quand il y a plus de problèmes, c'est là que le vrai problème commence. De la même façon, quand on n'a plus peur, c'est là que l'angoisse reprend ses droits. Eh bien, il n'y a plus la médiation d'un problème, donc évidemment, on se demande ce qu'il va faire. Eh bien, là, Tirésias nous renseigne sur l'avenir d'Ulysse. C'est extraordinaire, c'est le moment où Tirésias lui-même raconte ce qui se passe après l'Odyssée. On est au-delà de l'Odyssée. J'aurais voulu parler de ça. L'autre chose dont j'aurais voulu parler dans le chant 11, c'est sa mère, Anticléa, qui est si triste quand elle parle à Ulysse, donc l'âme de sa mère, qui lui dit « Ce n'est pas la langueur, ce n'est pas le tourment de quelque maladie qui me fit rendre l'âme, c'est le regret de toi, c'est le souci de toi, c'est, ô mon noble Ulysse, c'est ta tendresse même qui m'arracha la vie à la douceur de miel. » Cet aveu de sa mère qui le laisse pétri de culpabilité. Vous imaginez une chose pareille? Vous imaginez que un parent meurt en laissant à son enfant, à son fils favori, une lettre dans laquelle il dit « C'est de ta faute si je suis mort ». Je veux dire, c'est quand même le sort d'Ulysse. Voilà ce qu'il rencontre aux enfers. Il rencontre Agamemnon, Ça aussi, c'est très beau, parce que c'est le moment où Agamemnon raconte comment lui-même sera assassiné, enfin, a été assassiné à son retour de la guerre de Troie, donc après l'Iliade, à son retour par Clytemnestre, enfin, par sa femme. Mais surtout, ce que j'aurais voulu montrer, et ce que je regrette vivement de n'avoir pas évoqué, hormis ce qu'on se dit maintenant, dans le chant 11 de l'Odyssée, c'est le Achille, la rencontre avec Achille. Parce que Achille, c'est le mort le plus triste qu'on puisse imaginer. Dieu sait s'il est mort, c'est pas gai. Mais alors celui-là, vraiment, il est tellement triste. Et Ulysse lui dit, fils de Pélée, Achille, ô toi, le plus vaillant de tous les Achéens, verra-t-on jamais bonheur égal au tien? Jadis, quand tu vivais, nous tous, guerriers d'Argos, t'honorions comme un dieu. En ces lieux, aujourd'hui, je te vois sur les morts exercer la puissance. Pour toi, même la mort, Achille, est sans tristesse. Réponse d'Achille. Oh, ne me farde pas la mort, mon noble Ulysse. J'aimerais mieux valer de bœufs vivre en service chez un pauvre fermier qui n'aurait pas grand cher que régner sur ces morts, sur tout ce peuple éteint. Et cette phrase, ne me farde pas la mort, c'est l'un des viatiques du gai savoir. C'est l'une des raisons que nous avons eues de travailler. Ne pas se farder la mort. Et c'est l'une des vertus, tout simplement, de la philosophie. Combien de fois, Paola, souvenez-vous, avons-nous parlé de textes qui ne prétendent pas recouvrir le sentiment de notre mortalité, de l'illusion de quelque chose, ou ne prétendent pas nous inviter à regarder ailleurs. Bref, l'attention que nous avons portée tout le temps de ce travail, pendant toutes ces années, sur le refus des stratégies d'esquive. Voyez.
Oui, je ne sais pas si ça a vraiment porté ses fruits du coup, parce qu'en vous entendant lire les mots d'Achille, j'allais vous dire, disons, vous ne voulez pas qu'on parle de quelque chose de plus gai, Raphaël, pour cette dernière émission.
Oui, vous avez toujours eu le tort de penser que la mort n'était pas gai, alors que le gai savoir, camarade, le gai savoir, il repose uniquement là-dessus, uniquement sur le refus des alibis. Sur le refus des esquives, sur le refus des mauvaises foi. Il n'y a pas de gai savoir sans refus de la mauvaise foi, sans déconstruction de la mauvaise foi. Alors, il se peut qu'on soit de mauvaise foi dans la déconstruction de la mauvaise foi. Ça, c'est à nos auditeurs d'en juger. Et peut-être à nous-mêmes, d'ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est que le refus de la mauvaise foi est une condition de cette lucidité, la blessure la plus rapprochée du soleil. C'est une condition de la lucidité qui, elle, est une condition de la joie. Et non pas du bonheur. La différence entre la joie et le bonheur repose précisément sur l'art de se farder ou non la mort. Est-on de meilleure compagnie quand on regarde la mort en face ou quand on se la farde? Souvenez-vous, l'un des premiers textes qu'on a étudié, c'est le chapitre 20 du livre 1 des Essais. Voilà. Des Essais qui est en fait une reprise intégrale de Sénèque par Montaigne. Hein, et l'argument des stoïciens. Ne pas se farder la mort. C'est peut-être l'une des lignes de force du travail qu'on a fait. Il y avait l'idée qu'il fallait opposer la joie au bonheur et que la joie musicale contre les douleurs de la vie était un allié plus sûr au fond que la simple suspension de la douleur, en quoi consiste le bonheur qui ne promet qu'une chose, c'est le retour de la douleur. La joie est dans l'affirmation de la douleur et la douleur est, dit-on, dit Spinoza, soluble en un sens dans le fait de ne pas se la cacher. Spinoza et Nietzsche. Effectivement, le travail sur les stratégies d'esquive, de l'importance de Clément Rosset.
Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, Raphaël.
Vous pouvez tout vous permettre. Mais... C'est vous qui gouvernez ces entretiens depuis le début, dites-moi.
Cette dernière émission devait être consacrée à Clément Rosset. Et puis on s'est dit, on a déjà fait Clément Rosset 3 fois.
C'est vrai.
Il faut quand même donner la parole à tous ces livres dont on ne parlera pas.
Et puis aussi, on voulait parler du traité de l'idiotie, le réel. C'est un livre extraordinaire de Rosset. Mais chaque page est tellement dense. Je suis heureux d'avoir pu parler de Rosset avec vous et d'avoir trouvé en vous une interlocutrice qui fut émue par les textes de Rosset. Clément Rosset est, à mon avis, et je veux le redire encore une fois ici à cette antenne, le plus grand philosophe vivant. C'est-à-dire que c'est un philosophe classique. Lire du Rosset, c'est comme lire Aristote. Sauf que c'est lire Rosset. C'est-à-dire lire des passages sur Tintin, sur Hitchcock.
Sur Malcolm Lowry,
formidable. Dans le traité de l'idiotie, c'est extraordinaire. On a beaucoup parlé, d'ailleurs, du traité de l'idiotie quand on a parlé de l'ivresse. Puisque tous les passages qu'on donnait sur au-dessous du volcan, sur cette hébétude maximale du consul, et sur le fait que au-dessous du volcan se passait comme 24 heures, sur 24 heures, en temps réel, et qu'au fond ça n'est qu'une plongée via le mescal dans un univers quasiment onirique.
C'est-à-dire... Ça j'aurais vraiment aimé qu'on parle d'au-dessous du volcan.
Oui, c'est vrai, on aurait pu parler d'au-dessous du volcan. Et en même temps c'est un livre difficile, au-dessous du volcan, parce que c'est un livre... enfin. Sa lecture est un tel voyage. Un essai, on peut en concentrer un tout petit peu de la moelle en une heure. Mais au-dessous du volcan, pour le goûter, il faut plonger avec le consul. Il faut se pinter comme lui. Il faut être ivre comme lui. Il faut y aller. Donner à sentir ça en une heure, ça me semblait trop difficile, peut-être, je ne sais pas.
Sapevate dove andavate? Qual era la vostra destinazione?
Noi non sapevamo praticamente nulla. Avevamo visto alla stazione di Fossoli il cartello con la destinazione sui vagoni, con sopra scarabocchiato Auschwitz. Ma non sapevamo dove fosse. Abbiamo creduto che fosse Austerlitz. Pensavamo, ma sarà qualche parte in Boemia. A quel tempo in Italia credo nessuno, neppure... le persone meglio informate sapevano cosa volesse dire Auschwitz.
Quarant'anni fa, qual era stato il suo primo impatto con Auschwitz?
Era stato lunarmente diverso, di notte, dopo cinque giorni di un viaggio disastroso, in cui erano morte delle persone nel vagone, arrivando in un luogo di cui non si capiva la lingua, di cui non si capiva lo scopo, c'erano delle scritte insensate, nessuno spiegava niente, o ci parlavano in yiddish o in polacco e noi non capivamo. Era veramente un'esperienza estraniante, da cui si aveva l'impressione di essere in piena follia, di essere, aver abbandonato la possibilità di ragionare, non si ragionava più.
Je ris, mais ça, les auditeurs ne peuvent pas le voir, parce que
on peut l'entendre.
Je vois votre petit tas de regrets face à vous. Il faudra prendre des photos pour voir ces petits tas de livres dont on n'a pas parlé. Et je devine, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu de préparation à cette émission, enfin de préparation conventionnelle, comme on a pu faire d'autres fois. Donc je devine, et je ne sais pas par où commencer. Je vois qu'il y a Romain Gary, je vois Soreau.
Primo Levi.
Et je vois Primo Levi. Oui.
On n'a pas parlé de Si c'est un homme, rendez-vous compte. On n'en a pas parlé, c'est pourtant un devoir de parler de ce livre. S'il y a bien un devoir, Dieu sait si le gai savoir n'était pas un gai devoir. Sauf quand il fallait préparer les émissions. Et que nous faisions ce travail en amont, chacun de son côté, pour ensuite essayer de combiner nos intuitions. Bon, pourquoi Primo Levi ici ? Dans Si c'est un homme, les lecteurs de Si c'est un homme se souviennent que dans ce livre, il y a un moment où Primo Levi, le petit Primo, le jeune Primo, est avec un Piccolo, celui qu'on appelle Piccolo et dont le prénom m'échappe à cet instant. Et à un moment, Piccolo, le Piccolo, c'est une fonction dans le camp, c'est celui qui fait passer les informations, je ne sais plus, bref. Il occupe une fonction, il a un rôle dans le camp. Trouve une façon de faire un chemin un peu plus long pour aller, je crois, au KB, au Krankenbau, c'est-à-dire à l'infirmerie du camp. Et Primo met à profit ce chemin pour lui parler de l'enfer de Dante. Et c'est les seuls moments où il parle italien, où le texte est conservé. Alors, c'est sublime parce que ce sont des bribes de mémoire. Il se souvient des vers, quelques vers. Lo maggior corno della fiamma antica, je ne sais plus comment on le dit, parce que c'est l'accent tonique chez Dante, c'est un calvaire. Mais ce qui est beau, c'est que il cite des vers, il cite les vers qui lui viennent à l'esprit. Et il recompose comme ça par fragments une parole dont il ne peut dire qu'une seule chose à Piccolo, c'est qu'elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Et il y a, à Auschwitz, il y a eu deux hommes qui ont parlé de Dante, qui ont récité des vers de Dante, On savait qu'à Auschwitz, des rabbins discutaient entre eux, entre rabbins libéraux et rabbins orthodoxes, de la vérité du Talmud. On sait qu'il y a eu des scènes comme ça. On sait qu'il y a eu des discussions d'érudits. On connaît l'histoire de ces gens qui de mémoire, ont cité La recherche du temps perdu. J'oublie le nom à l'instant.
Oui, moi aussi.
J'oublie son nom. Et c'est honteux. C'est dommage. Et certains de nos auditeurs s'en souviendront. Et je m'en remets à eux. Un Polonais, mon Dieu, qui a cité, qui a fait cours sur la recherche du temps perdu de mémoire, Kserzinski, je ne sais plus. Bon, eh bien là, on a l'assurance, puisque tout ce que raconte Primo Levi dans le, si c'est un homme, j'allais dire le premier homme, dans si c'est un homme, sont des, et c'est véritablement passé, évidemment, puisque c'est l'objet du livre. Il y a eu deux hommes qui ont parlé de l'enfer de Dante, et ils l'ont fait au chapitre 11 de si c'est un homme, lequel chapitre 11 s'appelle le chant d'Ulysse. Alors qu'il parle de Dante. Si ça, c'est pas une référence directe à Homère, si vous voulez, je ne m'y connais pas. Moi, j'aurais voulu parler de ça. Et j'aurais voulu, si on avait parlé de si c'est un homme, m'interroger sur le fait que le coup de génie de ce livre, c'est que quand on le lit, alors on le lit quand on a 14-15 ans, mais tout, c'est très bien, il faut le faire, hein, mais on peut aussi le lire plus tard. Ceux d'entre vous, chers auditeurs, qui n'ont pas lu si c'est un homme à 14-15 ans, peuvent et doivent le faire aujourd'hui. C'est un livre qui a forgé la représentation collective d'Auschwitz. C'est-à-dire qu'au moment où la mémoire demandait à être imprimée, demandait à être orientée dans une certaine direction, demandait à s'installer dans un certain sens, Primo Levi est arrivé avec ce chef-d'œuvre qu'il a écrit en 2 ans, 1 an et demi, avec ce chef-d'œuvre où il raconte son séjour à Auschwitz, cette année qu'il a passée dans le camp de la mort, à côté de Birkenau. Ce livre a forgé la représentation collective que nous pouvions avoir et que nous pouvons avoir des camps de concentration et des camps d'extermination. Ce que, non pas ce que nous en savons, mais ce que nous en imaginons, ce qui est beaucoup plus important en un sens, parce qu'au fond c'est ça qui reste, ce que nous en imaginons vient de Primo Levi, c'est-à-dire on le doit à quelqu'un qui a décrit les faits comme ils s'étaient passés, mais qui, arrivé le premier, a informé la mémoire. Et ça, c'est fondamental. Et peut-être le devoir de mémoire, c'est celui-là. Le devoir de mémoire, bien sûr, c'est se souvenir. Mais le devoir de mémoire, c'est aussi le devoir d'étayer la mémoire. C'est aussi le devoir d'orienter la mémoire. Le souvenir comme tel, le souvenir pour le souvenir, ça n'est rien. Mais le souvenir déjà travaillé, déjà informé, déjà mis en perspective, déjà rendu par le témoignage d'un homme qui est jugé parti, qui est à la fois écrivain et victime, ce souvenir-là, c'est le souvenir sur lequel nous vivons depuis 70 ans. Et c'est avec ce souvenir-là que nous apprenons à nous souvenir d'Auschwitz, et c'est ce livre qu'il faut transmettre aux enfants, dans le devoir de transmission. Tout citoyen, tout individu a le devoir, il n'est pas obligé de l'accomplir, c'est la différence entre un devoir et une obligation, il n'est pas obligé de l'accomplir, mais il a le devoir de donner à lire, si c'est un homme, de Primo Levi, quel qu'il soit. Où que nous soyons, qui que nous soyons, et quelles que soient nos opinions politiques, on a le devoir de donner ce livre à lire, et pas seulement parce qu'au chant 11, il fait référence ouvertement, explicitement à l'Odyssée.
Alors voilà, ce que je constate maintenant, c'est que en regardant vos regrets et les miens, ouais. Le seul en commun, c'est les confessions de Saint-Augustin.
Ah oui.
Celles qu'on a tous les deux sur la liste des...
Pourquoi vous regrettez les confessions, vous, Paola?
Alors, moi, simplement parce qu'on n'a pas du tout parlé de Saint-Augustin et en toute première année où on faisait le Gai Savoir...
On s'était promis de le faire.
On s'était promis de le faire et j'y ai pensé. Pendant les 3 ans. Je me suis dit, un jour, on fera les confessions et ça me permettra de lire.
On n'a pas cessé d'agir. Oui, vous avez raison.
Et ça me permettra de m'y intéresser, comme pour Spinoza, en fait. J'ai découvert Spinoza avec Gai Savoir.
Avec Gai Savoir, oui.
Avec Gai Savoir. Et
vous avez découvert le Spinoza avec Gai Savoir, oui.
Et grâce au Gai Savoir. Et donc, je me suis dit qu'un jour, je pourrais faire la même chose avec les confessions. Maintenant, ce sera ajourné peut-être perpétuellement.
Alors, vous avez la liberté absolue de lire les confessions et vous en avez les moyens, ma chère Paola. C'est moi qui vous le dis. Comme vous tous, chers auditeurs, vous pouvez parfaitement lire ce chef-d'œuvre de Saint-Augustin. Un petit point sur les confessions. On a peu de temps pour en parler, mais enfin tout de même, il n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour lire Saint-Augustin. C'est comme Pascal. On n'en a pas besoin. Je veux dire, bien sûr, c'est intéressant, bien sûr, c'est important. Bien, on peut le faire. Saint Augustin est compatible avec le christianisme. Bon, mais je ne crois pas que ce soit. On peut retirer le meilleur de cette lecture sans pour autant croire en Dieu. Voilà. Peut-être qu'on ne fait pas à ce moment-là la totalité de l'expérience que Augustin décrit. Mais enfin, il nous suffit de lire ce livre comme ce qu'il est, c'est-à-dire la conversion d'un jeune débauché dont les débauches ne sont pas si terribles. Si on avait parlé des confessions, on aurait parlé du vol de poire. Et on aurait parlé du vol de poire, c'est-à-dire on aurait parlé du mal radical, du mal à sa racine. Vous savez, l'épisode du vol de poire, c'est le moment où Augustin, c'est le chapitre 4 du livre 2 des Confessions. Il dit ceci, après avoir volé la poire, Augustin constate que cette poire, il ne l'a pas volée pour la manger. Il ne l'a pas non plus volée pour la revendre. Donc le vol, le larcin d'Augustin, n'est ni l'effet d'une valeur d'échange, revente, ni l'effet d'une valeur d'usage, consommation. Bon, non, il l'a volée pour la voler. Il l'a volée pour faire le mal. Le mal pour le mal. Alors, c'est une façon pour Augustin de remplacer la pomme par la poire, même si la pomme n'est pomme que parce que, en latin, malus signifie également pommier, que donc c'est dans la Vulgate que l'arbre de la connaissance du bien et du mal devient un pommier. Mais quel est le fruit défendu ici? Que lui enseigne son fruit défendu? La possibilité d'une liberté radicale, la possibilité d'une transgression des commandements divins. Quelque chose, une perspective, alors là, pour le coup, que Spinoza n'arriverait pas du tout à penser, puisque l'interprétation que Spinoza donne du péché adamique, comme il dit, l'interprétation que Spinoza en donne, c'est une interprétation quasiment scientifique. Au fond, que signifie l'interdit divin? L'interdit divin, c'est une formulation folklorique et en termes moraux de ce qui relève en réalité d'un rapport défavorable au corps dans l'ingestion du fruit défendu. Que dit Spinoza? Si tu manges du fruit, ton corps va être empoisonné. C'est ça qui se passe. Seulement, de la même manière que pour dissuader les enfants de mettre les mains sur une plaque chauffée ou de mettre les mains dans le feu, on leur dit « c'est mal, c'est pas bien, c'est mal », au lieu de lui dire « tu vas te faire mal », on leur dit « c'est mal », on donne une lecture morale d'une concaténation de causes et d'effets, enfin d'un rapport d'efficience, quoi. Si je mets la main dans le feu, ça me brûle. Pour que l'enfant ne le fasse pas, on a besoin de donner un tour moral et quasiment métaphysique à l'interdit qu'on formule. C'est mal. Non, tu ne mets pas les mains dans le feu, c'est mal. C'est pas bien. Méchant. Méchante. Spinoza dit, voilà, on a interprété, on a dit c'est mal de manger le fruit de l'arbre, alors qu'en réalité, c'est juste pas bon. C'est pas le mal, c'est juste mauvais. C'est juste mauvais. C'est mauvais pour moi. Et donc Spinoza a cette lecture-là. Alors, cette lecture-là, qui est formidable, qui est très intelligente, très stimulante, merveilleuse, que Deleuze explique formidablement, est une lecture, qui a ses limites aussi, puisque ce qu'Augustin permet de penser, c'est une liberté radicale comme transgression d'un ordre divin. Donc on revient dans alors, c'est une liberté dont il déplore l'exercice, justement. C'est une liberté mauvaise, c'est une liberté vicieuse, mais ça reste une liberté. Et Augustin est celui qui, par le mal, fait l'expérience de la liberté, et en cela, il est à l'origine de toutes les philosophies de l'angoisse et de la liberté. Gide, Sartre, Heidegger. De ce point de vue, il y a une filiation qui se fait entre l'évêque qui décrit sa propre liberté comme une liberté de se nuire, et tous ceux qui ont ensuite pensé la liberté comme le geste fou de quelqu'un qui, pour conjurer l'angoisse et pour l'exprimer tout en la conjurant, fait soudain quelque chose de dingue. Vous voyez, cette tentation qu'on peut avoir quand on est en direct de dire soudain une énorme connerie qui nous irradie pour l'éternité, c'est une expérience augustinienne. Et alors, écoutez ça, Augustin sur la poire. « Voilà mon cœur, ô Dieu, voilà mon cœur dont vous avez eu pitié au fond de l'abîme. Qu'il vous dise maintenant, ce cœur, que voilà ce qu'il cherchait dans cet abîme, pour faire le mal sans raison, sans autre raison de le faire que sa malice même. Malice honteuse, et je l'ai aimé. J'ai aimé ma propre perte, j'ai aimé ma chute. Non l'objet qui me faisait choir, mais ma chute même, je l'ai aimé. Oh, laideur de l'âme qui abandonnait votre soutien pour sa ruine, et ne convoitait dans l'infamie que l'infamie elle-même. » Ouais, mais c'est de la liberté, ça. L'autre point sur Augustin, dont j'aurais voulu parler, si on en avait parlé, mais en fait, on n'a pas arrêté d'en parler. C'est la différence entre l'intime et le privé. Vous vous souvenez de ça? Chapitre 6 du livre 3 des Confessions. L'intime, c'est le nom de Dieu. C'est l'autre nom de Dieu, au fond. C'est ce qu'on a de plus intérieur en soi. Or, c'est un autre. De sorte que, quand on fouille dans son intimité, ce qu'on découvre, c'est une altérité. Je ne connais pas de meilleure façon de lutter contre le racisme que d'enseigner à quiconque pratique l'introspection que ce qu'il va trouver, ça n'est pas moi, ça n'est pas le moi, c'est au contraire l'autre. Quand on se fouille, quand on s'explore, c'est un autre qu'on découvre. Et si on découvre l'altérité en soi, on aura du mal à maudire l'altérité en autrui au nom de la constitution de sa propre identité. C'est difficile de concevoir, de souscrire à une définition obtuse de l'identité, une définition qui récuse au fond l'adversité, ou qui se constitue une identité qui se construit par négation de l'altérité. C'est difficile de concevoir, enfin de penser l'identité selon ce mode restreint et débile en définitive, quand on a découvert via Augustin que l'introspection conduisait à la découverte de l'altérité. Or ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas cessé de dire, surtout quand on a parlé de Pascal, mais pas seulement. Pas seulement. C'est une des lignes de force des discussions qu'on a toujours, toujours, il faut le dire ici, improvisées. Paola.
Quel est votre dernier regret, puisque le temps...
Mon dernier regret, déjà, vous croyez?
Non, non,
je sais pas. Des regrets, il y en a d'autres. Mais j'aurais voulu qu'on aille au bout du voyage au bout de la nuit. On n'est pas allé au bout du voyage au bout de la nuit, c'est-à-dire que dans notre traitement du voyage au bout de la nuit, qu'on a fait étape par étape, on l'a fait en touriste aussi, hein, je veux dire, on a fait le voyage comme on fait Venise en une journée, hein, parce que bon, il y avait tellement de choses à en dire. On n'a pas parlé de la fin, c'est-à-dire on n'a pas parlé du meurtre de Robinson. Et moi, la scène dans le taxi, entre Robinson et Magdelon, est une scène à mon avis fondamentale, parce que Céline a ce génie de ne jamais donner des atours grandiloquents aux débats les plus essentiels. Ici, qu'est-ce que c'est que le débat ? Le débat, c'est la différence entre le pessimisme, la déprime, la mélancolie, et l'optimisme, l'enthousiasme, le fait d'y croire, et notamment de croire à l'amour. Bon. Alors, on peut mettre de grandes phrases là-dessus. On peut mettre de grands mots. En général, quand on met de grands mots, on donne la primeur au sentiment. On fait valoir que c'est l'amour qui l'emporte, que c'est l'amour qui a raison, que all you need is love. Bon. En revanche, quand on plonge dans le détail, on s'aperçoit que l'ayatollah, le dangereux, c'est une dangereuse, c'est Magdelon, c'est celle qui y croit, c'est celle qui aime Robinson, c'est celle qui veut faire sa vie avec lui, c'est celle qui veut l'épouser, qui veut des enfants de lui, alors que Robinson, il veut plus rien. Il en a marre de ça. Il lui dit, tu veux vraiment bouffer de la viande pourrie avec de la sauce à la tendresse? Ce que lui dit Robinson. J'adore cette phrase. Tu veux vraiment bouffer de la viande pourrie avec de la sauce à la tendresse? Alors que elle lui dit, mais moi je t'aime mon Léon, moi je t'aime, et je t'aime jusqu'à l'odeur de tes pieds, moi je t'aime, et viens avec moi, allez viens. Et en définitive, elle le tue. Ce qui est fort dans ce passage, c'est que dans ce taxi, la scène qui se joue sous les yeux de Bardamu et de la Sophie, qui est la petite amie de Bardamu à ce moment-là, ce qui se joue dans ce moment-là, c'est l'assassinat de la mélancolie par l'optimisme. C'est le danger qu'il y a à être optimiste, au fond. C'est à quel point les optimistes sont des gens dangereux, à quel point le bien est un mal. Et cette ultime leçon du voyage au bout de la nuit, qui se termine par cette phrase quand même, et qu'on n'en parle plus, cette ultime leçon du voyage au bout de la nuit, je regrette, oui, de pas l'avoir donné à entendre. D'autant que le voyage au bout de la nuit nous aurait inscrit dans une continuité après un séjour aux enfers, ou après plusieurs séjours aux enfers, un séjour proustien, un séjour homérique et d'autres passages.
Moi, j'ai un regret qui est plutôt formel, en réalité. Mm-hmm. C'est qu'on a beaucoup parlé de théâtre.
Il est bien temps de le dire, oui. Alors, dites-nous.
On a beaucoup... Non, pas la forme du Gai Savoir. Mais on a beaucoup parlé de théâtre, on a beaucoup parlé de romans, mm-hmm. en plus des essais philosophiques. Et on a parlé qu'une fois de poésie, en réalité. C'est quand on a fait... Enfin, on a consacré une seule émission. C'est quand on a fait Baudelaire.
C'est vrai, on a fait ça qu'une fois ?
On a fait ça qu'une fois. C'était avec Les Fleurs du Mal. Et on n'a pas parlé de Rimbaud. On aurait pu parler de Rimbaud, Raphaël.
Ah oui, on aurait pu parler de Rimbaud, tu parles. On aurait pu parler de Rimbaud. Si on avait parlé de Rimbaud, je serais parti de Vénus Anadyomène, en réponse à Platon. Puisque si on met en miroir la naissance d'Eros, le récit de Diotime dans le banquet, la Vénus céleste en définitive, et la Vénus Anadyomène de Rimbaud, celle qui est belle hideusement d'un ulcère à l'anus, puisque c'est le dernier vers de Vénus Anadyomène, je pense qu'il y aurait eu là beaucoup beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire sur cet oxymore révolutionnaire, le bel hideusement qu'on aurait pu inscrire d'ailleurs dans une filiation hugolienne, c'est-à-dire vraiment la splendeur des bas-fonds, la sublimité du grotesque, ou le grotesque du sublime éventuellement. Mais le bel hideusement, bon, l'ulcère à l'anus, j'ai jamais vraiment compris comment ça pouvait marcher, un ulcère à l'anus, mes connaissances en anatomie s'arrêtent assez vite, si vous voulez, j'ai vraiment 9 ans de ce point de vue, mais en revanche, le bel hideusement me semble tout à fait passionnant. En revanche, c'est vrai que c'est difficile de parler de Rimbaud sans parler du bateau ivre, et c'est impossible de parler du bateau ivre, Paola. Je m'y suis essayé plusieurs fois, non pas dans le Gai Savoir, mais dans d'autres émissions. Comment voulez-vous parler du bateau ivre? Tous les mots, tous les commentaires sont superflus sur le bateau ivre. Tous les commentaires sont superflus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qui s'y trouve? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant? Qu'est-ce qu'on peut éclairer dans un texte si clair? Une métaphore si limpide? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? En plus, si on avait parlé du bateau ivre, j'aurais insisté sur le fait que c'est peut-être un bateau qui est mal gouverné. Voilà. J'aurais aimé le lire au premier degré, comme j'ai aimé lire La Peste au premier degré.
On n'a pas fait d'émission sur La Peste.
On n'a pas fait d'émission sur La Peste.
Non.
Est-ce qu'on a parlé, souvenez-vous, est-ce qu'on a parlé de la mort de l'acteur sur scène qui joue Orphée et Eurydice? Vous vous souvenez de ça? Dans La Peste, il y a une troupe de théâtre qui est prisonnière à Oran. Ils sont donc prisonniers de la ville qui est en quarantaine. Ils étaient là au moment où la ville a été mise en quarantaine, donc ils sont contraints de rester. Et ils n'ont qu'une seule pièce à leur répertoire, c'est Orphée et Eurydice. Et au moment où Orphée perd Eurydice parce qu'il se retourne trop vite, j'ai perdu mon Eurydice, etc. Au moment où Orphée perd Eurydice, l'acteur qui joue Orphée commence à tituber sur scène. Alors au début, les spectateurs trouvent que c'est un effet de jeu. C'est un spectacle qu'ils ont déjà vu 40 fois puisqu'ils jouent toujours le même spectacle du coup. Donc les gens retournent au théâtre parce qu'ils n'ont que ça à faire. Et au moment où le type se met à jouer Orphée, il se met à tituber, alors on apprécie en connaisseur ce jeu de scène, et puis il s'effondre et on comprend qu'il a la peste. Et donc les acteurs quittent la scène, les spectateurs quittent la salle, et ils sont tellement tamisés par la peste, tellement cramés par le fléau du virus, qu'ils s'en vont tranquillement, sans hâte, sans crainte, sans peur, sans hurlement, sans déchirement, sans rien. Mais en fait, ce qui est important dans cette histoire, pour le coup, dans ce livre que j'aime lire au premier degré, c'est la valeur symbolique de la mort d'Orphée. Parce que pour Camus, qu'est-ce que c'est que la révolte? La révolte, c'est le point de bascule entre une solitude et une solidarité. C'est le moment où la solitude, l'exercice de la solitude, tel qu'il est décrit par Camus ou par Thoreau dans Walden ou La vie dans les bois, l'approfondissement d'une solitude débouche sur la conscience de l'autre et sur le sentiment de la révolte. C'est la grande trouvaille camusienne, Camusienne, Walden écrivait avant, mais on peut parler vraiment, je crois, d'une trouvaille camusienne, ce lien entre solitaire et solidaire, si vous voulez, qu'il établit. Or, ce lien-là est un passage entre Orphée et Prométhée. La solitude est une solitude orphique qui consiste à s'inscrire dans le monde. Moi-même, je suis ce vent, je suis répandu aux quatre coins des colonnes, etc., etc. Je me perds dans le vent, c'est le passage de noces dont, pour le coup, nous avons parlé. Donc, c'est cette dilution de soi, la solitude, cette perte du moi. Cette perte du moi qui célèbre les retrouvailles avec le monde, mais également les retrouvailles avec l'injustice et le sens de la révolte. Il faut un invincible été de solitude en soi pour avoir la force de se révolter, en d'autres termes, pour passer de Orphée, inscription dans le monde, la figure paradigmatique de l'inscription dans le monde, à Prométhée, c'est-à-dire le combattant, c'est-à-dire celui qui prend les armes. Celui qui prend les armes parce qu'il a mal au monde entier. Et cette conversion de Orphée en Prométhée est mimée par la mort symbolique d'Orphée dans La Peste et devant, sous le regard de tous ces êtres prométhéens que sont ces petits fonctionnaires, ces petits gris, qui se donnent un mal de chien pour sauver des vies dont ils n'avaient cure quand les gens qu'ils sauvent étaient en bonne santé et qui le font au péril de leur propre vie parce qu'ils ne voient rien d'autre à faire. Ils ne voient pas de raison de ne pas se retrousser les manches. Et le sentiment que la guerre est perdue d'avance parce que, qu'est-ce que vous voulez, on va mourir, mais qu'on peut gagner quand même toutes les batailles dans le temps de la vie, ce sentiment si camusien qui fait de Camus le meilleur compagnon des gens qui ne s'en remettent pas à l'espoir pour recevoir un peu d'énergie. C'est ça Camus. Camus, c'est quelqu'un qui accompagne les gens, qui refuse le treuil de l'espoir pour se donner de l'énergie. Ce sentiment si camusien, ce prométhéisme camusien, il apparaît de façon symbolique pour le coup dans La Peste et avec la mort d'Orphée. Thank you.
vais pas vous cacher, Raphaël, que je n'ai pas vraiment de transition entre prête et éclatante. Là. Mais après tout, ce sont vos regrets et pas les miens. Donc, vos regrets sont les miens, je ne sais
pas. On a entendu les vôtres et puis ils sont pas si éloignés.
Non, mais je veux dire, Le Marchand de Venise, je ne l'ai pas lu pour tout dire et du coup, je...
Ah, c'est vrai.
Comment le regretter?
Ah, comment le regretter? Lisez-le, et vous verrez à quel point c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé, oui. Le Marchand de Venise, après avoir parlé de si c'est un homme, on retourne chez les antisémites. Je sais pas si c'est une pièce antisémite, en fait. Une émission sur Le Marchand de Venise impose, me semble-t-il, de se poser la question de savoir si c'est une pièce antisémite ou non. La trame est très simple. Shylock est un usurier qui vit à Venise et qui déteste Antonio. Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas Antonio? Parce que c'est un usurier juif, Shylock. Et il est comme les juifs, il n'a accès qu'au métier d'usure. Et il déteste Antonio, qui, comme lui, prête de l'argent, sauf que Antonio prête sans intérêt. Bon, ce sont des prêts sans intérêt. Et donc il fait baisser, dit Shylock, le taux de l'usance. Je ne connaissais pas ce mot avant de lire la pièce. Et donc Shylock lui en veut beaucoup. Et un jour, Bassanio demande à son ami Antonio de lui prêter 3000 ducats pour aller faire la cour à la belle Portia. Antonio, qui célèbre l'amour et qui est lui-même un grand mélancolique d'ailleurs, lui dit « Mais bien sûr mon ami, je me porte garant de ces 3000 ducats. Je ne peux pas te les donner parce que je ne les ai pas là sur moi. J'ai une affaire d'import-export, enfin, il ne le dit pas comme ça, qui fonctionne très bien. Donc je vais les récupérer bientôt. Donc je me porte garant du prêt que tu peux aller demander en mon nom à Shylock, monsieur serrure timide. » Shylock. Et il va demander 3000 ducats à Shylock. Shylock les lui accorde, mais il demande en retour, et il les lui accorde sans intérêt, mais il lui demande en retour, il dit en retour que s'il n'est pas remboursé à une date et une heure précises, il pourra prélever une livre de chair sur le corps d'Antonio. Or, les navires d'Antonio font naufrage, Bassanio séduit la belle Portia, mais les navires d'Antonio font naufrage, Antonio ne peut pas rembourser le prêt, et quand bien même Bassanio arriverait avec 3 fois la somme qu'on lui a prêtée, Shylock ne veut rien entendre et il veut prélever sa livre de chair. Et donc évidemment, cette pièce a été servie, le juif assoiffé de sang, celui pour qui l'argent c'est du sang, etc., etc., etc. Et... Portia, déguisée en magistrat, décide de sauver la vie d'Antonio, de l'ami de son mari, et elle commence par invoquer la clémence comme principe chrétien contre le judaïsme qui, lui, invoque le droit, à l'appui d'une communauté qu'il faut défendre. Et elle invoque la clémence. Shylock s'en fout résolument, c'est pas son problème. Non, il veut sa livre de chair, « The pound of flesh is mine ». Et puis finalement, ils s'en sortent parce que, à malin, malin et demi, elle lui fait valoir que, enfin, le magistrat Portia lui fait valoir que, il peut prélever une livre de chair, mais attention, il ne doit pas prélever un gramme de plus, ni faire couler une seule goutte de sang, sinon tous ses biens seront confisqués. Et donc Shylock se retrouve pris à son propre jeu. Alors, il y a là-dedans d'authentiques passages antisémites. Le juif ne veut plus, le juif veut ma peau, le juif, etc. Bon. Le juif n'est pas très sympathique, Shylock. Mais c'est aussi là-dedans, et ce serait trop long d'entrer dans le détail de ça, mais c'est aussi là-dedans qu'on trouve un passage extraordinaire, bien connu, lu dans To Be or Not To Be par l'un des Hallebardiers qui interprète Hamlet, enfin qui joue dans Hamlet au début de la pièce. Donc To Be or Not To Be de Lubitsch, donc vous avez au moins entendu ça du Marchand de Venise. Et vous savez, Paola, on va entendre Orson Welles le dire en anglais, dans le texte original, et j'en donnerai la traduction ensuite.
I am a Jew. I'm not a Jew. Hands. It's not a Jew. Eyes. Organs, dimensions, senses, affections, passions. Fed with the same food, hurt with the same weapons. Subject to the same diseases, healed by the same means. Warmed and cooled by the same summer and winter. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? We are like you in the rest, so we will resemble you in that. The villainy you teach us, we will execute. It shall go hard, but I will
better the instruction.
Je suis un juif. Un juif n'a-t-il pas des yeux? Un juif n'a-t-il pas des mains, des organes, des proportions, des sens, des affections, des passions? N'est-il pas nourri de la même nourriture, blessé des mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes moyens, échauffé et refroidi par le même été et par le même hiver qu'un chrétien? Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas? Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne rions pas? Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourrons pas? Et si vous nous outragez, est-ce que nous ne nous vengerons pas? Et ce texte, qui est pour le coup l'un des textes les plus, non pas philosémites, mais l'un des meilleurs arguments au XVIIe siècle qu'on peut invoquer à l'appui de la cause alors difficile à défendre de l'intégration du juif dans la sphère de l'humanité, ce texte se trouve dans cette pièce qu'à mon avis, indûment, on tient pour une pièce antisémite. Voilà. Autant de choses que j'aurais voulu évoquer sur le Marchand de Venise, et j'aurais aimé, vous savez, dans le Marchand de Venise, évoquer le cinquième acte. Parce que le cinquième acte du Marchand de Venise n'a rien à voir avec les quatre premiers, c'est une longue méditation amoureuse sous la lune. Il y a comme ça des livres dont la fin est complètement détachée de la fin. Anna Karénine, la fin d'Anna Karénine, c'est une longue méditation de Lévine, méditation mystique de Lévine. La fin du Marchand de Venise, c'est un acte tout entier qui n'a plus rien à voir avec ça. C'est-à-dire que la pièce pouvait parfaitement s'arrêter à la fin de l'acte 4. Mais non, Shakespeare a bizarrement éprouvé le besoin de rajouter un monument de poésie au cinquième acte de cette pièce. Et c'est un monument de poésie lunaire.
Alors ça nous pose la question de comment finir cette dernière émission du Gai Savoir. Est-ce qu'il faut la finir à la façon où j'avais en tête, là, pendant que vous parliez, enfin je vous écoutais, mais en même temps j'avais en tête le début de l'œuvre de Bounouel et la toute fin qu'on reprend souvent, l'œil qui est entaillé dans le chien andalou, puis la dernière image du dernier film de Bounouel où on voit une couturière recoudre un tissu. Alors est-ce qu'on pourrait, puisque la première émission du Gai Savoir c'était Nietzsche, est-ce qu'on pourrait terminer par un Nietzsche aussi?
Si vous voulez.
Est-ce qu'on a encore des regrets sur Nietzsche?
Oh, on a que ça. On n'a que ça, parce que chaque page de Nietzsche aurait mérité, à mon sens, une émission à part entière. En fait, vous savez, d'ailleurs, dans cette émission, on l'a joué encyclopédique, genre on parle de tout, mais en réalité, on n'a pas du tout parlé de tout. D'abord, on a parlé d'une certaine manière des choses dont nous parlions, et puis, qu'est-ce que vous voulez, on a des auteurs de prédilection, on n'a pas fait d'émission sur Hegel, on a dû en faire 6 sur Camus, on n'en a pas fait sur Hegel, on a dû en faire 8 sur Nietzsche.
Hegel n'est même pas dans les regrets.
Non, j'ai pas de regrets. Ça m'est resté. Vous savez, la philosophie d'Hegel, comme disait mon prof d'Hippocagne, qui ne l'aimait pas non plus, mon prof de Cagne, qui ne l'aimait pas non plus, ça m'est toujours resté. J'ai jamais pu le lire, en vérité. Je n'ai de lui qu'une connaissance standard, celle des manuels, celle des livres, avec deux ou trois passages qui sont tout à fait géniaux. On aurait pu parler de la raison dans l'histoire, effectivement, de la lecture hegelienne de l'histoire, puisqu'elle est tout entière tirée de la théodicée de Leibniz. Et là, on avait, à mon sens, de quoi faire. On aurait pu en parler sans avoir le sentiment d'imposture. Mais il eût été impossible, pour moi, et peut-être pour vous, de creuser d'autres textes de Hegel sans vraiment avoir l'impression d'usurper la place que la radio nous a faite pendant ces trois années. Donc, c'est pour ça qu'on s'est abstenu. En revanche, Nietzsche, bien sûr. On a parlé de la Lune, à propos de la fin du Marchand de Venise. Et il y a un passage dans le Zarathoustra dont je voudrais parler, alors du coup, pour rester dans la Lune. Pour rester dans la Lune et pour quitter la Lune. C'est le chapitre du Zarathoustra qui s'appelle « De l'Immaculée Connaissance ». Et puis d'ailleurs, comme le temps presse, on va vraiment finir dessus. Ce qui est une façon de finir sans finir. L'objet de Nietzsche, vous savez, c'est l'une des autres lignes de force du Gai Savoir est de dire que nous sommes juges et partis. De l'intérêt qu'on apportait à Merleau-Ponty, par exemple, qui se trouve jugé parti. La figure du chiasme chez Merleau-Ponty, le sentiment que vivre quelque chose, supposer qu'on soit en vie. Il faut rencontrer le monde dont on fait partie, au fond. Être jugé parti. Or, cette modalité de la connaissance, le spectateur engagé aronien, par exemple, ou bien Aron, autre regret, ou bien le papillon de Jean Kélévitch, qui voudrait être et savoir en même temps. Bref, toutes ces figures d'une connaissance qui ne cède pas sur la nécessité d'éprouver ce qu'elle connaît, même si le fait qu'elle éprouve ce qu'elle connaît l'éloigne de la vérité qu'elle pourrait dire sur ce qu'elle raconte, cette figure-là, cette méthode-là que nous avons mise en œuvre implicitement, elle est tout entière contenue dans ce chapitre, dans ce chapitre de Zarathoustra sur l'Immaculée Connaissance, dont l'objet est d'enseigner à son lecteur de ne pas regarder les choses ou de ne pas les connaître à la façon dont un astre mort regarde la Terre. Écoutez ça, Paola. Je m'en excuse d'ailleurs, enfin, que nos auditeurs m'en excusent. Le passage est un tout petit peu long, mais je crois, s'ils nous prêtent l'oreille encore quelques minutes, qu'ils ne perdront pas leur temps. De l'immaculée connaissance. Écoutez ça, Paola. Lorsque hier la lune s'est levée, il me semblait qu'elle voulut mettre au monde un soleil tant elle s'était couchée à l'horizon lourde et pleine. Mais elle mentait avec sa grossesse. Voyez, la lune s'avance, déloyale comme un chat. Je vous donne cette parabole à vous autres, hypocrites sensibles, vous qui cherchez la connaissance pure, c'est vous que j'appelle lascif. Vous aimez aussi la terre et tout ce qui est terrestre, je vous ai bien deviné, mais il y a dans votre amour de la honte et de la mauvaise conscience. Oui, vous ressemblez à la lune. On a persuadé votre esprit de mépriser tout ce qui est terrestre, mais on n'a pas persuadé vos entrailles. Pourtant, elles sont ce qu'il y a de plus fort en vous. Et maintenant, votre esprit a honte d'obéir à vos entrailles, et il suit des chemins dérobés et trompeurs pour échapper à sa propre honte. Ce serait pour moi la chose la plus haute, ainsi se parle à lui-même votre esprit mensonger, de regarder la vie sans convoitise et non comme les chiens avec la langue pendante, être heureux dans la contemplation avec la volonté morte, sans rapacité et sans envie égoïste, froid et gris sur tout le corps mais les yeux enivrés de lune. Ce serait pour moi la bonne part, ainsi s'est conduit lui-même celui qui a été éconduit, d'aimer la terre comme l'aime la lune et de ne toucher sa beauté que des yeux. Et voici ce que j'appelle l'immaculée connaissance de toutes choses. Ne rien demander aux choses que de pouvoir s'étendre devant elles ainsi qu'un miroir aux 100 regards. Oh, hypocrites sensibles et lascifs, il vous manque l'innocence dans le désir. Et c'est pourquoi vous calomniez le désir. En vérité, vous n'aimez pas la terre comme des créateurs, des générateurs joyeux de créer. Où y a-t-il de l'innocence? Là où il y a la volonté d'engendrer. Et celui qui veut créer au-dessus de lui-même, celui-là possède à mes yeux la volonté la plus pure. Où y a-t-il de la beauté? Là où il faut que je veuille de toute ma volonté, où je veux aimer et disparaître afin qu'une image ne reste pas image seulement. Aimer et disparaître, ceci s'accorde depuis des éternités. Vouloir aimer, c'est aussi être prêt à la mort, c'est ainsi que je vous parle, poltron. Mais votre regard louche et efféminé veut être contemplatif, et ce que l'on peut approcher avec des yeux pusillanimes doit être appelé beau, ô vous qui souillez les noms les plus nobles. Mais ceci doit être votre malédiction, hommes immaculés qui cherchez la connaissance pure, que vous n'arriviez jamais à engendrer, quoique vous soyez couchés à l'horizon, lourds et pleins comme la lune. En vérité, vous remplissez votre bouche de nobles paroles, et vous voudriez nous faire croire que votre cœur déborde, menteur. Mais mes paroles sont des paroles grossières, méprisées et informes, et j'aime à recueillir ce qui, dans vos festins, tombe sous la table. Elles me suffisent toujours pour dire la vérité aux hypocrites. Oui, mes arêtes, mes coquilles et mes feuilles de houx doivent vous chatouiller le nez, hypocrite. Il y a toujours de l'air vicié autour de vous et autour de vos festins, car vos pensées lascives, vos mensonges et vos dissimulations sont dans l'air. Ayez donc tout d'abord le courage d'avoir foi en vous-même et en vos entrailles. Celui qui n'a pas foi en lui-même ment toujours. La distance qui me séparait de vous me cachait des immondices de serpents et de mauvaises odeurs, et je ne savais pas que la ruse d'un lézard rôda par ici, lascive, mais je me suis approché de vous. Alors le jour m'est venu, et maintenant il vient pour vous. Les amours de la lune sont leur déclin. Regardez-la donc, elle est là-haut, surprise et pâle devant l'aurore. Car déjà l'aurore monte, ardente, son amour pour la terre approche. Tout amour de soleil est innocence et désir de créateur. Regardez donc comme l'aurore passe impatiente sur la mer. Ne sentez-vous pas la soif et la chaude haleine de son amour? Elle veut aspirer la mer et boire ses profondeurs, et le désir de la mer s'élève avec ses 1000 mamelles. Car la mer veut être baisée et aspirée par le soleil. Elle veut devenir air et hauteur, et sentier de lumière, et lumière elle-même. En vérité, pareil au soleil, j'aime la vie et toutes les mers profondes. Merci Paola.
Merci Raphaël.
Oui, merci à vous Paola, merci à toi du fond du cœur d'avoir si bien joué le jeu et de l'avoir honoré de ta candeur. une candeur savante, aux antipodes de la naïveté. La plupart des gens croient savoir sans savoir qu'ils croient. Mais toi, Paola, dont la valeur n'a pas attendu le nombre des années, tu savais déjà à 17 ans que chaque doute est un gain, et que toute phrase n'est jamais que la réponse à une question, et qu'elle en appelle d'autres. Qui eût pensé, qui eût cru que l'adolescente était une sage-femme ? À coup sûr, Nietzsche ne pense pas à toi quand il déclare dans le Zarathoustra qu'il manque l'innocence dans le désir à ceux qui calomnient le désir. Bref, c'est peu dire, Paola, que j'ai beaucoup appris de toi, comme nos auditeurs d'ailleurs, de ton innocence, c'est-à-dire de ton acuité, même si je persiste malgré moi à ne pas aimer Godard, ni Durandal d'ailleurs, mais enfin Durandal, on s'en fout. Merci Alice, Alice Ramon, notre merveilleuse collaboratrice et attachée de production, toujours disponible, pertinente, au sourire et à la compétence de qui aucune difficulté ne résiste longtemps. Et puis je le dis la gorge serrée, merci François. François Connac, cher François, cher ami de 8 ans, compagnon d'armes infaillible, mélomane exceptionnel, réalisateur hors pair, qui nous gratifiait comme un dernier présent du clair de lune de Debussy. Au-delà de vous et à côté de vous, François, un grand merci à tous vos camarades réalisateurs comme vous qui ont eux aussi posé leur doigt de fée sur nos divagations. Rafik Zénine, Véronique Villa, Luc-Jean Reynaud, Somanina, Vincent Abouchard. Merci tout particulier aux techniciens de cette chaîne qui font un métier remarquable et qui le font remarquablement. Qu'on me permette ici d'en citer quelques-uns, c'est l'occasion. Jason Taous, Bernard Laniel aux manettes aujourd'hui, Cédric Châtelus, Jean-Richard Dufour, Olivier Dupré, Michel Mestre, Claire Levasseur, Alain Joubert, Bruno Mourlan, Manuel Couturier. Le binôme technicien chargé de réalisation, chers auditeurs, comprenez-le, n'est pas seulement la clé d'une éventuelle émission réussie, c'est la radio elle-même. La radio de service public, c'est sa moelle, sa quintessence. Et s'il fallait préserver un îlot de vertu dans le sinistre village global, ce serait, à mon humble avis, celui-là avant tout autre. Et puis merci bien sûr à nos lecteurs et nos lectrices, ou à nos lectrices et nos lecteurs, attention. Georges Claes, Julie-Marie Parmentier, je les donne dans le désordre, Elsa Zilberstein, Eurydice Lettres, qui tous de la lumière, Judith Magre, Marianne Bassler, Louis Garel, Guillaume Gallienne, Anne Brissier, Jean-Louis Jacopin, Claire-Anne Menaucourt, et Valérie Lang, mon amie Valérie Lang, trop tard connue, dont la voix prouvait à chaque phrase qu'aucun commentaire n'arrive au talon d'une véritable interprétation. Merci à vous, enfin, dans le silence, chers auditeurs, attentifs, fidèles, exigeants. Mais quel public, nom de Dieu! C'est un honneur de travailler pour vous, sur cette chaîne qui, malgré ce carême absurde, ce ramadan chrétien qui nous a mis au chômage technique 6 semaines par an, demeure, à mon sens, la meilleure des radios de service public. Toutes ces émissions, vous pourrez les trouver pendant 3 ans encore, mais aussi sur le site dont le titre n'est pas de moi, puisqu'il s'intitule « Philosopher avec Raphaël Antoven » et où toutes les émissions que vous avez peut-être suivies sont désormais donc téléchargeables. Voilà, il est 17h sur France Culture et la vie continue. Dans un instant, l'atelier du pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.